They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达鲁加
正忙碌着正忙碌着
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clémence Lezard, aussi Tiffaine de Rocchini, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. Première émission consacrée aux prisons cette semaine, quand les murs tremblent. On va consacrer donc ces quatre volets aux prisons, des États-Unis à l'Europe en passant par la Chine. Et pour commencer, eh bien direction le pays détenant le triste record du taux d'incarcération le plus élevé, mais aussi le nombre de détenus le plus important en valeur absolue, les États-Unis. Le pays compte un peu plus de 2,2 millions de personnes incarcérées, contre 1,5 million pour la Chine et 760 000 pour la Russie. Au bilan, c'est quasiment 0,8% de la population adulte qui est derrière les barreaux, presque une personne sur 100, soit pratiquement un quart de la population carcérale mondiale. En 2009, les États-Unis ont dépensé près de 83 milliards de dollars pour leur système carcéral, pratiquement le double de ce qui a été dépensé pour l'éducation. Depuis les années 80, le taux d'incarcération a été multiplié par 5. Alors pour enrayer cette véritable culture de l'incarcération, le président américain a décidé de prendre les choses en main. Alors que la fin de son mandat approche, le président Obama semble bien décidé à faire passer sa réforme significative du système judiciaire. Pour preuve, sa visite récente à la maison fédérale d'El Reno dans l'Oklahoma, c'était la première fois qu'un président en exercice se rendait dans une prison.
The United States accounts for 5% of the world's population. We account for 25% of the world's inmates. And that represents a huge surge.
5% de la population mondiale vit aux États-Unis, mais nous comptons 25% des détenus dans le monde. Cela représente une augmentation considérable depuis 1998. Une des causes principales de ce phénomène d'incarcération massive est la législation sur les drogues. Et nous devons nous interroger pour savoir si c'est la manière la plus intelligente pour contrôler le crime. Cela représente un coût considérable pour le contribuable américain, l'équivalent de 80 milliards de dollars par an. Il y a évidemment des personnes qui doivent aller en prison. Je ne tolère pas les crimes violents, mais d'un autre côté, il y a des délinquants non violents qui pour la plupart grandissent dans des milieux où le trafic de drogue, par exemple, est commun. Et la question est la suivante. Comment pouvons-nous faire en sorte que des institutions aident les enfants et adolescents avant qu'ils ne soient emprisonnés pour leur éviter de tomber dans ce cercle vicieux ?
Voilà, et le président ne se contente pas de grands discours, puisque récemment la Maison-Blanche décidait la libération anticipée de 6000 prisonniers potentiellement libérables depuis le 1er novembre, depuis il y a quelques jours. Donc cette initiative fait suite à une décision prise à la fois par Eric Holder, ancien ministre de la Justice, et par la Commission des peines afin de réajuster les très lourdes condamnations prononcées depuis les années 80 pour détention de stupéfiants. En plus de réduire évidemment le coût exorbitant de l'incarcération de masse. Alors est-ce qu'il faut y voir le signe d'une prise de conscience que ce modèle carcéral américain est peut-être arrivé à un point de rupture? Le tout répressif du système pénal américain a-t-il atteint ses limites? Est-il possible de le réformer? Et comment? Voilà toutes les grandes questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Deux jours plus tôt, c'était le 14 juillet dernier, le président américain prononçait un autre discours à Philadelphia devant 3000 délégués de la NAACP, la plus importante association de défense des droits civiques des Noirs américains, au cours duquel il a appelé à une réforme des textes régissant le système judiciaire. Car par ailleurs, et au-delà de la question de la surpopulation, les prisons américaines sont connues pour être un lieu où les minorités hispaniques et afro-américaines sont largement surreprésentées. 60% des détenus, alors qu'elles ne constituent que 30% de la population américaine. Ça aussi, Barack Obama l'a dénoncé dans ce fameux discours. Les afro-américains ont plus de chances, disait-il, d'être arrêtés. Ils ont plus de chances d'être condamnés à des peines supérieures que les blancs pour les mêmes délits, disait-il. Incarcération de masse, supermax, tolérance zéro, surreprésentation des minorités, criminalisation de la pauvreté, quel visage du pays de l'oncle Sam les prisons nous révèlent-elles? Voilà les questions qu'on va se poser ce matin. Pour ce faire, nous avons invité ici en studio Yasmine Boiga. Bonjour Yasmine Boiga.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, au laboratoire Triangle à Lyon. Vous aviez été d'ailleurs, je crois, invité à l'université de Washington et de Seattle, je crois, entre 2006 et 2008.
Oui.
Donc vous avez eu l'occasion évidemment de voir tout ce modèle carcéral américain de près. D'abord un mot, Yasmine Boiga, sur cette démarche symbolique évidemment de Barack Obama qui se rend dans une prison. C'est, je le disais, la première fois qu'un chef d'État, qu'un président américain se rend dans une prison alors qu'il est encore en exercice. Est-ce que vous diriez que Et peut-être au-delà justement du président lui-même, cette initiative est aussi le signe que peut-être aux États-Unis, la classe politique dans son ensemble est en train de se rendre compte que sa politique carcérale est à revoir. Est-ce que vous sentez une forme de remise en question générale du modèle d'incarcération massif ?
Alors, il est vrai que depuis 2008, notamment avec la crise économique, on s'est mis à questionner davantage aux États-Unis le coût de l'incarcération. Qui avait pris des proportions, une taille disproportionnée, et à réfléchir sur les effets de cette politique et son efficacité, ce qui a conduit à une vraie place de la prison dans le débat public. On l'a vu davantage de reportages dans les médias questionnant les pratiques de l'incarcération, de la punition. Et cette démarche de Barack Obama s'inscrit dans cette nouvelle mise à l'agenda de la question de la prison aux États-Unis, là où seule la question de la lutte contre la criminalité avait une place.
Parce que là, je parlais justement de cette libération de 6000 détenus, donc condamnés pour des délits mineurs liés à la question des stupéfiants. C'est une politique qui a été initiée par la Maison-Blanche, appliquée par la Commission des peines. C'est évidemment extrêmement rare de voir une telle vague de libération. Et visiblement, aux États-Unis, il y a une forme de consensus politique autour de cette décision.
Cette décision, elle s'inscrit dans le cadre d'une réforme législative qui a été prise au début du premier mandat d'Obama, avec une réforme qui s'appelait le Fair Sentencing et qui revenait sur des lois antérieures qui imposaient des peines planchers en matière d'infractions aux stupéfiants. Et ces peines planchers étaient très très élevées. Elles imposaient plusieurs années de prison, même pour la détention de petites quantités de stupéfiants, conduisant à l'explosion du système carcéral fédéral. Et donc Obama a décidé de revoir ces lois, ce qui faisait ce qui a réuni un relatif consensus, vu que beaucoup de données ont été recueillies sur le caractère totalement absurde et totalement discriminatoire également de ces lois qui prévoyaient des peines minimum très inégales en fonction de la détention, par exemple de cocaïne en poudre ou de crack. C'était une inégalité de 1 à 100, ce qui avait conduit à une forte surincarcération des personnes consommant davantage de crack, qui étaient plutôt de milieux pauvres et noirs plus souvent. Et donc, dans le cadre de cette réforme, il était possible de l'appliquer rétroactivement à des personnes qui avaient déjà été condamnées, parfois à 20 ans, 25 ans de prison auparavant. Et donc, ces 6000 libérations s'inscrivent dans le cadre d'un volontarisme pour mettre en œuvre cette réforme des peines.
Alors, il y a effectivement, vous le disiez, Yasmine Bouaga, cet argument qui pourrait plaider en faveur justement de la révision du système judiciaire et carcéral. C'est son coût, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, plus de 80 milliards chaque année. Sauf que quand même, quand on regarde le nombre d'emplois dans ce secteur-là, j'étais effaré, 800 000 emplois dans les secteurs carcérales. C'est plus que l'industrie automobile. Donc ça veut dire que le poids économique aussi pourrait peut-être jouer un rôle et freiner la réforme. C'est aussi une chose qu'on pourrait attendre.
C'est une question par quoi on remplace l'emploi fourni par l'industrie carcérale. Bon, il faut dire que c'est quand même de l'emploi qui est financé sur fonds publics pour la plupart. Enfin, essentiellement sur fonds publics. Les fonctionnaires pénitentiaires sont financés par l'argent des impôts des Américains qui pourraient très bien être utilisés à d'autres choses que à l'enfermement de leurs concitoyens. Mais il est vrai que ça contribue à créer des groupes de pression favorables au maintien de politiques répressives. Et dans les années 90, ça a été la période de grand boom de la construction, l'ouverture de nouvelles prisons, les communautés les plus désindustrialisées, qui avaient le plus souffert de la désindustrialisation, ont reçu comme compensation, en quelque sorte, l'arrivée de prisons pour fournir de l'emploi local. Donc, effectivement, il va falloir réfléchir à d'autres formes d'emploi que la prison, mais ça ne me semble pas impossible non plus.
Je crois que le débat sur le coût carcéral, il a été particulièrement fort du côté de la Californie.
Oui, en Californie, c'est un débat qui a fortement pris dès 2008. Ça, c'est un État qui est assez en pointe sur le plan de l'incarcération, qu'avait le nombre de détenus le plus important aux États-Unis, et qui a été en pointe aussi dans la révision des politiques carcérales, des politiques d'incarcération. Et suite à une situation de crise vraiment aiguë, hein, où on trouvait des détenus enfermés dans des gymnases faute de place. Il y a eu des décisions judiciaires pour imposer des libérations massives de détenus, en vertu du respect de la dignité des personnes. Donc la surpopulation impliquait une libération massive, ce qui a amené à un vrai débat sur la politique pénale de l'État, avec une révision des peines minimales, notamment pour les personnes condamnées pour des affaires de stupéfiants, donc ce qu'on retrouve maintenant au niveau fédéral. Et il y a eu une vraie baisse du nombre de personnes entrant en prison aussi en Californie.
Justement, parce que vous parliez de surpopulation, il y a un chiffre qui est étonnant, je doutais même de sa véracité, mais vous allez nous en parler, parce que quand on regarde les taux d'occupation des prisons par pays, alors il y a beaucoup de pays qui sont très largement au-dessus, Haïti, Philippines, je vous les donne dans l'ordre, Haïti, Philippines, Venezuela, Kenya, Iran, Pakistan, Brésil, Italie, Mexique, France, bien sûr, l'Inde, et quand on regarde pour les États-Unis, visiblement le taux d'occupation correspond exactement aujourd'hui aux capacités existantes. D'après le chiffre de l'International Center for Prison Studies, de l'Université de Londres, on n'est ni en surcapacité, ni en sous-capacité. Il y a une gestion visiblement absolument optimale de la capacité carcérale aux États-Unis.
Enfin, juste pour un rappel, le système carcéral américain est en réalité composé de trois systèmes. Ouais. Il y a le système fédéral, les prisons d'État et les jails. C'est l'équivalent de maisons d'arrêt. Les jails sont, dans la plupart des États, très surpeuplés parce que c'est comme en France, en fait, c'est là où les personnes arrivent depuis les tribunaux. Ensuite, il y a d'autres types d'établissements qui peuvent être en sous-occupation. Et ce qui peut expliquer que les chiffres au niveau global soient, entre guillemets, parfaits.
Il peut y avoir derrière une réalité beaucoup plus...
Voilà, ça masque de très fortes disparités. Et juste un point, ce que je décrivais sur l'enfermement collectif dans des gymnases, dans des jails de Californie, peut très bien aller s'accompagner dans le même état d'un enfermement en solitaire de prisonniers dans ce qu'on appelle les supermax, avec chacun dans une cellule, une forme très très individualisée du traitement pénal.
On reviendra justement sur les supermax, Yasmine Bouaga. La population carcérale, je le disais, elle a augmenté de 800% depuis les années 1980, alors que la population, elle, n'a augmenté que de 30%. Comment comprendre cette explosion de la population carcérale ?
C'est un grand mystère qui a beaucoup occupé les chercheurs en sciences sociales. Il y a plusieurs facteurs, et les principaux sont l'augmentation très importante des durées des peines, et l'augmentation également des budgets alloués aux forces de police chargées de réprimer les infractions, et en particulier les infractions liées aux stupéfiants. Avec la conjonction de cela, on a eu des peines minimales pour les infractions liées aux stupéfiants qui passaient de quelques mois, voire quelques années, à plusieurs dizaines d'années parfois, et un volontarisme effréné pour aller rechercher toute petite infraction liée aux stupéfiants. Donc on a à la fois gardé les gens plus longtemps dans le système, mais surtout amené beaucoup plus de personnes dans le système. Donc ça, c'est un
désastre. Alors qu'il fut un temps, vous le rappelez dans un de vos articles, les États-Unis étaient en pointe dans leur libération conditionnelle.
Et voilà, l'autre aspect, c'est que à l'autre bout de la chaîne, on a arrêté de libérer de manière anticipée les personnes au nom de la sécurité, de ne pas prendre le risque de libérer un criminel. Il y a eu une affaire assez célèbre pendant une campagne électorale d'un détenu en libération, en permission de sortir, qui a commis un crime, ce qui a amené plusieurs États à supprimer tout simplement la possibilité de permission de sortie et la possibilité de libération conditionnelle et d'autres formes de peine alternative.
Donc on a effectivement une augmentation qui correspond peut-être à une nouvelle approche du crime centrée sur la gestion des risques, et en particulier les risques liés au trafic de drogue. Pour comprendre peut-être l'explosion aussi de ce taux d'incarcération, il faut remonter à une loi de 1994 promulguée sous le mandat de Bill Clinton. D'ailleurs, l'ancien président s'est récemment exprimé sur ce sujet. Écoutez.
Les crimes violents ont triplé ces 30 dernières années. Et les forces de police n'ont augmenté que de 10%. Donc nous avons engagé 110 000 policiers supplémentaires pour qu'ils puissent travailler auprès des communautés et nous avons voté la loi fédérale Assault Weapon Ban, ainsi qu'un amendement pour limiter le nombre de balles dans les chargeurs à 10. Et nous avons débloqué des fonds pour inciter les personnes à nous vendre leurs armes. Mais le problème, c'est que dans cette loi, nous avions prévu des peines de longue durée. Donc, même si la plupart des personnes qui sont en prison le sont d'après la législation de leur État, du fait de cette loi fédérale, la tendance est devenue plus lourde. Et c'était excessif. Nous nous sommes trompés. La bonne nouvelle est que nous connaissons la baisse la plus importante du nombre de crimes dans l'histoire. Mais la mauvaise nouvelle est que nous avons beaucoup de détenus qui sont essentiellement de petits délinquants et qui sont enfermés depuis trop longtemps.
Voilà, nous nous sommes trompés, nous avons trop de détenus, mais heureusement la criminalité a baissé, nous disait Bill Clinton. C'était il y a quelques semaines, hein, quelques mois, c'est vraiment très récent, Yasmina Bouaga. Alors peut-être un mot justement sur cette loi de 94, qu'est-ce qu'elle a changé? Et puis vous entendiez, il nous dit Bill Clinton, heureusement la criminalité a baissé. Les partisans de la tolérance zéro continuent de dire, d'expliquer que l'emprisonnement de masse a fait chuter la criminalité. Est-ce que l'hypothèse tient l'expérience? Est-ce que l'augmentation de l'emprisonnement a été mécaniquement avec une chute de la criminalité?
Alors c'est compliqué parce que effectivement il y a moins de personnes susceptibles de commettre des infractions qui sont dans la rue puisqu'ils sont derrière les barreaux. Donc les populations chez lesquelles on observe davantage d'actes illégaux parce qu'elles sont paupérisées, etc., se retrouvent massivement derrière les barreaux. Ceci dit, les courbes des homicides par exemple ne suivent pas les courbes de l'incarcération. Le taux d'homicide avait commencé à baisser avant que l'incarcération ne devienne massive aux États-Unis. Il avait baissé avant cette loi de 1994 de Bill Clinton, dont le principal, entre guillemets, apport consiste à débloquer des budgets fédéraux considérables pour permettre à des aux États, mais aussi aux counties, aux districts de construire leur propre prison, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement les moyens de construire autant d'établissements avant. Donc ça a été un véritable appel d'air pour l'incarcération. Et un autre élément, c'est que cette loi s'est accompagnée aussi d'une révision massive des politiques sociales qui a eu un effet dévastateur sur les communautés pauvres. Et participe de cette vision qu'il faut davantage réprimer plutôt que aider les gens en difficulté, qui est la cause de l'incarcération massive aux États-Unis.
Alors, l'incarcération massive, je précise, parce qu'on disait une augmentation de 800% depuis 1980, quand on regarde plus récemment les évolutions, on voit que la population carcérale, elle est en baisse depuis 2014. Peut-être là, justement, oui. le signe qu'on est en train de sortir de la logique carcérale.
Enfin, elle baisse de quelques pourcents.
Donc, mais c'est une première depuis 30 ans.
C'est une première, c'est très important de le souligner. Je pense qu'il faut rester prudent dans la mesure où, pour l'instant, les lois significatives, elles touchent le système fédéral, qui est, comme je le répète, un seul des trois systèmes de carcéraux américains et qui ne comporte que 10% du total des détenus, 200 000 personnes sur les 2 millions, et que les révisions des lois dans les États se font de manière très hétérogène. Elles se sont faites en Californie avec un réel effet, on attend pour un certain nombre d'États que ça se fasse. Et le contexte des campagnes électorales et le caractère très rétributif, en fait, on tire beaucoup de bénéfices à faire campagne sur le law and order encore maintenant. Ça invite à une certaine prudence en matière de bilan. Est-ce qu'on parle d'un vrai changement de paradigme? Je suis pas sûre.
Pas évident. Et alors, justement, vous parliez de campagne. Est-ce qu'on sait un peu quelles sont les positions, par exemple, d'une Hillary Clinton, qui est, on sait, candidate à l'investiture démocrate? Est-ce qu'on connaît un peu ses positions sur la politique carcérale? Est-ce qu'elle l'envisage de poursuivre le chemin que semble vouloir commencer à prendre Barack Obama ou...
Elle soutient cette réforme. Il y a un relatif consensus qui se dessine autour de du fait qu'on est allé trop loin dans la sanction d'infractions non violentes. Mmh. Et il y a un autre élément qui est que la légalisation récente du cannabis dans plusieurs États a conduit à aussi une prise de conscience que peut-être c'était incohérent de continuer à pénaliser aussi lourdement la détention de cannabis dans certaines lois, alors que c'est légal dans certains États.
De plus en plus d'États, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est au moins une vingtaine d'États, hein, je crois.
J'ai pas le chiffre en tête.
Juste sur cette fameuse loi, ce projet de loi qui est sur la table, Safe Accountable Fair and Effective Justice Act, est-ce qu'on sait un peu ce qu'il prévoit? Est-ce qu'on peut en attendre?
Alors, ce projet prévoit notamment un retour aussi aux politiques de réinsertion. C'est-à-dire que le premier volet de la révision des peines planchers va être approfondi par la future loi, qui va ajouter également un volet de développement du suivi en milieu ouvert après la peine de prison pour favoriser la réinsertion. Et ça, c'est quand même un tournant important d'un renouveau des politiques de réinsertion aux États-Unis. Pour l'instant, le contenu, on ne l'a pas précisément, mais il est important dans la mesure où il peut aussi montrer la voie sur le plan national pour renouveler des programmes de réinsertion.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, cette semaine, sur la question des prisons quand les murs tremblent. C'est le titre de notre série cette semaine et aujourd'hui, enfermement de masse, la faillite du système américain. On va parler en particulier des minorités à présent. Michelle Alexander, avocate, professeur de droit, a signé un livre en 2010 intitulé The New Jim Crow, en référence aux lois Jim Crow, une série d'arrêtés et de règlements promulgués entre 1876 et 1965, qui constituait l'un des piliers de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et dans ce livre, elle expliquait notamment qu'il y a aujourd'hui plus d'hommes afro-américains en prison ou en détention, en liberté surveillée ou liberté inconditionnelle, que de Noirs qui furent soumis à l'esclavage en 1850, avant que la guerre civile ne commence. Extrait justement de Michelle Alexander. Écoutez.
Les pauvres de couleur sont ciblés par notre système de justice pénale, arrêtés pour des infractions très mineures, ces mêmes crimes qui se produisent avec une fréquence égale dans les communautés de la classe moyenne ou sur les campus universitaires, mais là ils sont ciblés, arrêtés, puis aux prises avec des amendes et des frais qu'ils sont incapables de rembourser. Ils rentrent ainsi dans un système duquel ils ont peu d'espoir de s'échapper. Et vous le savez, nous pouvons regarder en arrière dans l'histoire et voir que ce n'est pas la première fois que nous avons fait quelque chose comme ça. Après la fin de l'esclavage, un nouveau système de contrôle racial et social est né, connu sous le nom de forçat location. Les hommes afro-américains ont été arrêtés en masse et ils ont été arrêtés pour des délits très mineurs comme le flânage, le vagabondage, puis envoyés en prison et ensuite loués à des plantations. Et aujourd'hui, nous voyons des millions de personnes pauvres et des gens de couleur qui sont piégés encore une fois dans un système qui les traite comme des marchandises et comme des gens facilement jetables.
Voilà, Michelle Alexander donc, qui s'exprimait donc, autour de ce livre paru en 2010, The New Jim Crow, et avec cette idée selon laquelle, au fond, la discrimination raciale systémique a repris après le mouvement des droits civiques dans une nouvelle forme intégrée à la lutte contre la drogue. Bonjour Pape Ndiaye.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste des minorités. Quel regard vous portez sur cette idée que cette discrimination raciale, elle aurait trouvé donc un nouveau relais dans la politique anti-drogue et ce parallèle peut-être avec l'esclavage, Pape Ndiaye?
C'est vrai si l'on regarde d'abord les chiffres, puisque si la population afro-américaine représente à peu près 13% de la population des États-Unis, elle représente 44% des détenus aux États-Unis. Et il y a depuis les années 90, ça s'est renforcé dans les années 2000, une politique d'incarcération systématique, y compris pour des peccadilles, une politique de quadrillage des quartiers pauvres noirs par la police, avec arrestations systématiques, contrôle d'identité, etc., par lequel la population noire a été particulièrement visée, et également, secondairement, la population hispanique. Cette histoire de l'enfermement des Noirs, et en particulier des hommes noirs, c'est une histoire très longue, puisque c'est vrai que dès la fin de l'esclavage, disons après la fin de la Reconstruction, à partir des années 1880, une politique qui a été une politique d'incarcération via des pénitenciers a été mise en place avec des objectifs qui étaient des objectifs économiques, comme Michel Alexander le rappelait, l'industrie de la plantation a employé de très nombreux hommes noirs qui étaient prisonniers. Et cela s'est prolongé à travers le XXe siècle. L'industrie de la plantation aujourd'hui n'existe plus, ou en tout cas de manière marginale, mais c'est une industrie qui est celle des détenus. Lorsque l'on appelle, par exemple, pour réserver une voiture ou bien une chambre d'hôtel ou un billet d'avion aux États-Unis, on a de fortes chances de tomber sur un détenu au téléphone. Donc il y a une économie dont vous parliez tout à l'heure. Et on puise assez largement, effectivement, dans le monde afro-américain.
Il y a un sociologue de l'université Harvard, Bruce Western, qui a calculé que la probabilité pour un homme noir sans diplôme d'être incarcéré au cours de son existence est de 60%. Et ça monte à 70% pour ceux qui sont nés entre 75 et 79. C'est devenu quasiment un passage obligé dans un parcours de vie.
Pour, en particulier, les jeunes noirs qui n'ont pas de diplôme, effectivement, 1 sur 3 sera ou passera par la prison, et l'expérience de la prison dans les quartiers noirs pauvres est une expérience très très communément partagée, qui concerne non seulement les premiers concernés, ceux qui vont ou qui sortent de prison, mais également tout l'entourage familial, les enfants, les compagnes, la famille en général, qui est évidemment profondément marquée par l'expérience de la prison. Les hommes ne sont plus là, la question des revenus familiaux. Bref, ce sont des quartiers qui, comme la sociologue Alice Goffman l'a montré assez récemment, sont marqués profondément dans les relations sociales, dans les revenus, par l'épée de Damoclès qui est celle de la prison qui pèse sur les prisonniers et bien au-delà sur le monde noir pauvre en général.
Vous aviez écrit Papa Ndiaye en 2009 à chez Gallimard, les Noirs américains en marche pour l'égalité. On est quand même, donc juste après l'élection de Barack Obama, on est quand même loin de la société post-raciale qu'on espérait avec l'arrivée de Barack Obama.
Ah oui, on en est très loin. Moi, je ne l'ai jamais espéré, sinon c'est comme horizon d'attente pour un futur très très lointain. Il est clair que l'élection d'Obama n'a pas, et les deux mandats qu'elle a exercés n'ont pas eu d'effet particulier sur les inégalités sociales et raciales aux États-Unis, qui se sont même accrues dans un certain nombre de domaines. En ce qui concerne les questions dont nous parlons maintenant, les choses, il y a des inflexions. On a parlé tout à l'heure de la visite d'Obama dans une prison fédérale à l'été dernier. Il y a une prise de conscience du coût extraordinaire que représente cette politique d'incarcération de masse, coût économique, coût social, etc. Mais
est-ce qu'on n'est pas juste dans le symbole ? Est-ce qu'on n'est pas juste dans le symbole, une fois encore, Papa Ndiaye ?
En partie, puisque les prisons fédérales sont c'est 10% du total des prisonniers. Donc Obama n'agit que sur une toute petite partie. Puis il faut ajouter à cela le nombre de personnes en probation, donc sous contrôle judiciaire. Bien au-delà des 2 millions de prisonniers, il y a à peu près 5 millions de personnes sous contrôle judiciaire. Tout cela est une réalité de la société américaine contemporaine qui n'a pas été profondément changée par les mandats d'Obama, même s'il y a, je pense, quand même une prise de conscience du côté d'Obama, mais aussi du côté d'un certain nombre de législateurs qui ne comptaient pas ces dernières années parmi les plus libéraux et les plus ouverts sur la question du coût fantastique du système pénitentiaire américain.
Vous restez encore un petit peu avec nous, Papa Ndiaye. Je passe la parole à Yasmine Bouaga qui voulait réagir. Yasmine Bouaga.
Oui, je voulais réagir sur un point, c'est qu'il y a, certains éléments qui sont actuellement débattus dans l'espace public alors qu'ils étaient relativement confinés au milieu militant auparavant, notamment la violence au sein des prisons ou le scandale de Rikers Island, par exemple, s'est étalé dans les pages du New York Times, a été très largement repris par les médias de masse, ce qui a permis de voir l'indignité des conditions de détention, mais aussi du comportement des personnels pénitentiaires vis-à-vis des détenus. Mais il y a certains aspects qui sont encore totalement hors du débat, et notamment la question de ce qu'on appelle aux États-Unis le disenfranchisement, le fait que les détenus perdent leurs droits civiques, et parfois au-delà, enfin souvent au-delà de la période de leur détention. Ce qui crée une population, une véritable population privée de droits civiques aux États-Unis qui ne vote pas et ne participe pas à la vie politique.
Alors vous faisiez référence, Yasmine Boiga, à cette affaire Rikers Island. Peut-être que les auditeurs français ne connaissent pas forcément cette affaire. Alors il est âgé de 16 ans, c'est un jeune homme noir, il rentre chez lui. Dans la nuit du Bronx, après une fête, il est interpellé par la police. On l'accuse d'avoir volé un sac à dos. Il est envoyé en prison. Il y passe 3 années durant lesquelles il va subir des violences, notamment de gardiens, de codétenus. Il va passer plus de 1000 jours à l'isolement. Écoutez un extrait justement d'un témoignage de Calif Broder à l'issue de cette affaire.
J'ai passé 3 réveillons, 4 de mes anniversaires. J'ai passé beaucoup de fêtes, de jours fériés là-bas en prison. Et c'est très dur d'être entouré de mecs très impressionnants, ils sont très grands, ils sont durs, ils ont des méthodes très violentes, de sauvages, certains ont des armes, certains sont des chefs de gang. Si tu ne leur donnes pas tes droits à un coup de fil, ou si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils vont faire de ta vie un enfer, parce que certains ont genre 50 membres dans leur gang, et enfin tout ça fait vraiment très peur. Un jour, un gars est sorti de nulle part et m'a dit que je les avais volés. Dans la seconde, ils appellent les flics, alors que juste, je ne les avais jamais vus de ma vie. Et après, je passe 3 ans, même plus 3 ans, en prison, pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et quand ils m'ont relâché, pas d'excuses, rien. Rien, ils ont juste dit, bon, affaire classée. Ne vous inquiétez pas, c'est fini. Mais quoi, ne vous inquiétez pas? Vous venez de me prendre 3 ans de ma vie. J'ai pas pu aller au bal de promo, j'ai pas pu passer mon diplôme, rien. Ces années-là, on ne me les rendra jamais. Jamais.
Voilà, Calif Broder à la chaîne ABC, c'était il y a quelques mois, emprisonné donc à tort, maltraité pendant plusieurs années dans cette prison de Rikers Island, tout près de Manhattan. Le jeune Calif Broder s'est finalement suicidé 2 ans après sa sortie de prison, c'était en juin dernier. Yasmine Boiga, ce drame, il a eu peut-être, alors j'allais dire la vertu finalement, de pointer du doigt la violence absolument incroyable qui règne dans ces prisons, et notamment celle de Rikers Island.
Oui, alors c'est une prison pour laquelle en fait on avait signalé plusieurs cas de décès inquiétants, ce qui a conduit à une enquête sur cet établissement qui est très important. Hein, il compte 11 000 détenus, donc c'est la grande maison d'arrêt de New York, et il a une unité pour les mineurs également. Et donc il y a eu plusieurs décès liés à des violences sur les détenus, à des négligences médicales graves. On avait laissé des détenus diabétiques, par exemple, mourir en cellule sans traitement médical. Les rapports ont permis de montrer l'ampleur de ces violences.
Et est-ce qu'il y a eu des améliorations?
Voilà, reste à passer les personnes en procès. Sur le plan des améliorations, il y a eu certaines mesures prises, donc notamment suite à l'affaire de Calif Broder qui a quand même secoué l'opinion, il a été décidé que les mineurs ne feraient plus l'objet de mise à l'isolement, puisque quelque chose de dramatique dans l'expérience de Calif Broder, qui était très jeune au moment de son incarcération, c'est qu'il a été maintenu à l'isolement pendant plusieurs mois, pendant les 2/3 de sa détention en réalité, ce qui a causé pour lui des troubles psychiatriques graves en termes d'angoisse, de crise de phobie, et qui ont conduit à son suicide peu après sa sortie.
On va revenir à cette question justement de l'isolement et des supermaximum, ces prisons de haute sécurité. Réaction, Pape Ndiaye, sur ce cas Calif Broder, dont vous avez évidemment entendu parler, Pape Ndiaye.
Oui, c'est un de ces cas tragiques qui peut en effet susciter l'attention, peut-être motiver certaines réformes. Ce qui me frappe, c'est pour un certain nombre de jeunes Américains, notamment de jeunes Afro-Américains, c'est une accumulation de peccadilles, de petites choses qui mènent en prison, d'où l'enjeu important des interactions et des rencontres avec la police. Un simple contrôle de police peut mener en prison, et donc un certain nombre de jeunes s'enfuient à la vue des policiers, ce qui déclenche des réactions de violence de la part des policiers, comme on a pu le voir depuis un an et demi au moins, et même bien avant Ferguson pendant l'été 2014. Donc c'est l'ensemble des interactions, depuis les interactions avec la police jusqu'à la prison et après la prison, qui est en jeu. C'est une longue séquence de vie avant et après le séjour en prison. Après le séjour en prison, on perd en effet ses droits civiques, ce qui d'ailleurs permet de comprendre aussi le fait que la participation électorale des Noirs américains soit relativement faible. C'est pas seulement parce que les gens ne veulent pas voter, mais c'est aussi parce qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas voter. Et puis aussi l'accès au travail qui est fantastiquement compliqué par le séjour en prison, qui pèse comme un stigmate. Bref, c'est l'ensemble de la vie qui se trouve compromis et qui a évidemment des effets très larges, des effets de halo sur l'ensemble des communautés afro-américaines.
Merci beaucoup, Pape Ndiaye, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle l'un de vos derniers ouvrages, Histoire de Chicago, coécrit avec Andrew Diamond, qui était paru chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va poursuivre, Yasmine Bouaga, ensemble. On parlait donc de ces supermax, ces prisons de haute sécurité, où l'isolement du reste du monde, du reste des détenus est la règle. On peut sortir de sa cellule seulement une heure par jour, dans des conditions voilà, menottées. Il y a une soixantaine, je crois, de ces prisons de ce type-là dans le pays. Ça concerne donc 2% de la population carcérale. C'est peut-être l'un des symboles, en tous les cas, de ce tournant répressif pris par les États-Unis dans les années 70-80. Peut-être un virage vers une nouvelle philosophie de l'enfermement. Et pour comprendre tout ça, il faut revenir peut-être à août 71. George Jackson, militant noir américain, rejoint en prison le Black Panther Party. Il est tué par les gardiens dans la cour de la prison. Les autorités avaient décrit ça comme une tentative d'évasion.
Bonjour, il est 5h du matin, nous sommes le 13 septembre. Nous nous tenons sur le toit de la prison d'Attica. Nous attendons que l'assaut soit donné. Il y a une équipe de 270 policiers.
En attendant que la prison soit reprise, je me trouvais dans le bloc C et je regardais par la fenêtre. Et sur le toit qui entourait la cour se trouvaient les forces de l'ordre et le personnel pénitentiaire. Ils avaient des fusils, des pistolets, ils tiraient des coups. Ils regardaient dans la cour, puis les hélicoptères sont arrivés.
Bon alors, ces émeutes d'Attica, 1971... dans l'État de New York. C'est peut-être l'un des éléments, Yasmine Bouaga, qui explique l'émergence de ces fameux supermax.
Alors c'est une des genèses.
Un élément déclencheur.
Voilà, c'est une des genèses de ces établissements de très haute sécurité. Mais ce n'est pas la seule. Juste un point, ce qu'on appelle supermax en réalité ne recouvre qu'une partie de la détention à l'isolement aux États-Unis, qui peut avoir lieu dans des unités spécialisées de prison ordinaire. La prison que je mentionnais de Rikers Island tout à l'heure comporte une unité d'isolement où donc Kelly Broder avait été incarcéré pendant les deux tiers de sa peine, enfin de sa détention plutôt, qu'on surnomme le Bing. Et le point commun de ces unités d'isolement, ce sont que c'est un régime extrêmement coercitif d'incarcération dans une pièce qui fait à peu près la taille d'une place de parking, pour reprendre l'expression d'un juge de la Cour suprême, disons 7 mètres carrés, avec extrêmement peu de mobilier scellé au sol, de la lumière souvent en permanence sous forme de néon, ce qui fait perdre totalement le sens du temps, et un isolement social quasi total, c'est-à-dire aucune interaction avec d'autres détenus ni avec les surveillants, qui se contentent de passer un plateau repas par une petite fente.
Ça concerne combien de détenus aux États-Unis, ça ?
Les estimations sont très variables. Une enquête récente menée par l'école de droit de Yale et l'association des directeurs de prison, une association nationale de directeurs de prison, l'estime à environ 100 000 personnes, entre 80 et 100 000 personnes. C'est-à-dire qu'ils ont recensé à peu près 80 000 personnes dans les prisons d'État, et auxquelles il faut ajouter toutes les personnes qui sont incarcérées dans ce type de structure dans les maison d'arrêt, sachant qu'il y a 4000 cellules rien que pour la prison de Rikers Island. Donc, il est assez difficile de savoir combien de personnes à un moment donné passent par là, mais c'est véritablement massif, et ça traduit un penchant à la gestion extrêmement coercitive, à une gestion sécuritaire extrêmement coercitive de la population carcérale, avec un usage de la force qui est totalement disproportionné au risque qu'on qu'on cherche à prévenir.
C'est quoi le profil qu'on retrouve essentiellement dans ces unités ?
Alors ces unités, elles ont été justifiées par la menace de subversion dans les établissements pénitentiaires. C'est pour ça qu'une des jeunesses, c'est l'émeute de Attica, qui est une émeute à caractère politique, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement des droits civiques, où il y avait il y a eu une incarcération de personnes très politisées en prison. Ce type d'établissement, c'est aussi répandu dans le cadre de la lutte contre les gangs. On va retrouver la justification pour un des plus grands supermax des États-Unis, qui est Pelican Bay, qui est l'enjeu d'isoler les leaders de gangs. En réalité, dans ces établissements, on va retrouver un certain nombre de personnes qui menacent, pour une raison ou pour une autre, l'ordre interne des établissements. Si on fait des enquêtes, comme j'ai pu le faire dans l'État du Washington, on remarque qu'un grand nombre de personnes à l'isolement sont atteintes de troubles psychiatriques. Donc c'est des personnes qui vont causer des désordres dans le quotidien de la détention et qu'on va mettre à l'écart parce qu'on ne sait pas quoi en faire et pour qui les conditions de détention vont être extrêmement délétères, causer des véritables hallucinations, des crises d'angoisse, de panique, un taux de suicide extrêmement élevé également dans ces unités qui ont des effets dramatiques sur les personnes.
Vous écrivez, on estime qu'en 2014, les prisons américaines comptaient plus de 356 000 personnes atteintes de maladies psychiatriques sévères, alors qu'au même moment, on ne comptait plus que 35 000 lits dans les hôpitaux psychiatriques publics contre plus d'un demi-million dans les années 70. On a donc désinvesti le champ de la prise en charge psychiatrique, qui a été récupéré d'une certaine manière par le monde carcéral, qui est évidemment pas adapté pour ça. Donc c'est aussi une dimension qui explique finalement ce drame carcéral américain.
Oui, on insiste beaucoup sur la question raciale qui est majeure aux États-Unis la question du traitement des malades mentaux est souvent moins visible, alors que le transfert de population atteinte de troubles psychiatriques de l'hôpital public vers la prison est massif sur la période d'augmentation de la population carcérale aux États-Unis. Et la prison s'est retrouvée le principal pourvoyeur de soins psychiatriques aux États-Unis. Je décrivais la gestion très coercitive, donc il s'agit pas de soins du tout dans les supermax, mais il faut reconnaître que dans un certain nombre d'établissements, on a développé des unités de soins psychiatriques qui ressemblent à des hôpitaux psychiatriques, mais qui sont sous un régime carcéral.
On va prendre à présent la direction du Brésil. L'année dernière, il y a eu une très importante émeute qui avait eu lieu dans la prison de Predinhas de San Luis, dans l'état de Maranhão. Vous aviez écrit notamment un article à ce sujet, d'écorcher votre nom. Vous êtes avec nous ?
Je vous en prie. Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes donc journaliste, correspondante à Rio, notamment pour Le Figaro, pour Le Monde Diplomatique et Mediapart. La police était intervenue pour ramener un peu le calme, ce qui avait eu pour effet d'aggraver en fait la situation, notamment parce que les chefs de gang emprisonnés à l'intérieur avaient ordonné à leurs compagnons malfaiteurs de l'extérieur de s'adonner à des violences en tout genre. Les prisons brésiliennes, elles sont littéralement débordées. Aujourd'hui, je crois qu'on compte 550 000 individus derrière les barreaux. C'est donc la quatrième population carcérale au monde. La majorité des détenus sont des jeunes noirs et pauvres. Et là, évidemment, on voit un point commun terrifiant entre les États-Unis et le Brésil. Les prisons sont finalement le miroir des inégalités. Et là aussi, les noirs, ils sont surreprésentés, la Mia-Walalou.
Oui, totalement. On a deux tiers, en fait, des prisonniers qui sont noirs et plus de la moitié qui sont des jeunes. Donc, ce qui en fait en plus une école du crime. Et les statistiques ont encore empiré. On est maintenant à plus de 600 000 en fait prisonniers, 608 000 exactement. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. C'est 7 fois plus qu'en 1990. Donc, on a un emballement littéral de la machine carcérale. Le ministre de la Justice a même alerté en disant si on continue à ce rythme, le Brésil comptera 1 million de détenus en 2022. Et tout ça avec un déficit de places considérable. On compte à peu près 380 000 places, donc il manque un bon tiers en fait de places, qui fait que dans les chambres, enfin les cellules elles sont surpeuplées, les détenus dorment parfois chacun leur tour parce qu'on peut pas s'allonger, y a plusieurs restent debout, l'eau est sale, la nourriture est parfois pourrie et la violence est permanente, et ce qui fait qu'on a des mutineries. Alors il y a celle que vous avez mentionnée l'an dernier, malheureusement les médias ne prêtent même plus vraiment attention parce qu'il y en a tout le temps des mutineries. Pour protester contre, en particulier, la mauvaise les mauvaises conditions de détention, et aussi parce que, comme vous disiez, pour garantir leur sécurité, les détenus acceptent la tutelle des gangs à l'intérieur. Donc en fait, à l'intérieur des prisons, vous avez elles sont divisées par gangs. Les gangs qui sont à l'extérieur sont reproduits à l'intérieur, et avec un niveau de violence, avec des armes, avec des couteaux, avec des pistolets parfois, enfin avec un niveau de violence considérable. Et donc on a aussi énormément d'assassinats à l'intérieur des prisons, bon, plus de 300 par an. À cause de tout cela.
Oui, il y avait eu dans cette affaire-là, vous avez raison de le rappeler, il y avait eu des affaires de torture, même de décapitation. C'est ça qui avait été à l'origine de ces émeutes. Mais alors, les choses risquent pas de s'arranger du côté du Brésil, parce que le grand débat, l'un des grands débats au Brésil en ce moment, se fait autour de cette question de savoir s'il faut ou pas baisser l'âge de la responsabilité pénale, ce qui aurait pour effet évidemment d'envoyer un nombre de mineurs en plus dans les prisons déjà qui débordantes, l'ami à Walalou.
Oui, exactement. Il y a une loi qui est en cours de discussion au Congrès pour rabaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans. Et puis, pour tout vous dire, l'auteur du projet de loi a annoncé que son objectif serait, dans les prochaines années, de passer à 14, puis 12, et éventuellement, même analyser dans le ventre des mamans, voir si le bébé pourra donner créer des problèmes à la société. Dans ce cas-là, on pourra provoquer un avortement. C'est littéralement ce qu'il a dit. Le problème, c'est que de récents crimes qui ont été commis récemment par des mineurs et qui ont été amplement relayés par les médias font que, selon un récent sondage, 87% des Brésiliens approuvent cette réduction. Donc, malheureusement, il est très possible que cette loi passe. Oui. Et ça enverrait directement au moins 40 000 personnes de plus dans les prisons. Encore une fois, très souvent, ce sera des gamins qui n'auront pas fait de crimes majeurs, qui auront probablement volé un vélo ou même une bouteille de shampoing. Pour peu qu'ils soient noirs, que ce soit des jeunes hommes noirs dans des banlieues ou dans des favelas, ils seront directement envoyés en prison, où là, à côté des chefs de gang et tout, on sera transformé en véritables criminels. Donc on a...
En fait, le Brésil, à vous entendre, Lamia Walalou, le Brésil est en train de prendre le virage qu'avait pris le système américain dans les années 80.
Exactement. Enfin, je suis pas sûre qu'il en soit jamais sorti, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte maintenant parce que le problème devient considérable. Si on a 1 million, comme vous voyez, d'ici 2022, c'est quand même fou. Et ce qu'on réalise, c'est que tout le débat l'idée selon laquelle il n'y a pas de racisme au Brésil, évidemment, c'est très très clair maintenant, comme aux États-Unis, que c'est une façon de criminaliser les pauvres, de criminaliser les noirs. C'est même dans la loi, par exemple, au Brésil, si vous avez un diplôme, vous n'allez pas dans une même prison que si vous n'avez pas de diplôme. Donc c'est carrément dans la loi. On fait une différence entre le col blanc et le peuple, disons.
Yasmine Boigard, réaction sur ce que vous entendez sur le Brésil, qui ressemble étrangement, voire peut-être pire, à ce qu'on voit du côté des États-Unis.
Alors honnêtement, je ne pensais pas qu'on en était à ce point au Brésil. Je trouve très intéressant ce que nous dit Lamia Walalou, parce que on voit un emballement de la machine carcérale qui est très soutenu par l'opinion. Donc visiblement, il y a un soutien pour les politiques law and order, donc les politiques d'être sévères, des politiques de sévérité et de répression très forte. Alors que le Brésil avait été du temps de Lula un peu un modèle de plutôt d'aller vers la justice sociale, d'aller vers un autre modèle de société. Donc
vous notez, vous, Lamia Walalou, une rupture dans la politique carcérale entre Lula justement et Dilma Rousseff?
Non. Même dans les années Lula, en fait, la population carcérale a considérablement augmenté. Ça, c'est une des promesses qu'il a fait d'arranger, en fait, d'essayer d'améliorer la situation des détenus. Et rien ne s'est fait parce que c'est très compliqué. On est aussi comme aux États-Unis avec plusieurs niveaux. On a l'État fédéral, on a les différentes provinces. Il faut négocier tout. Et après, on revient à quelque chose de culturel très, très profond. Ici, on a souvent dit un bon bandit est un bandit mort. On a la police brésilienne est la police la plus dangereuse du monde, celle qui tue le plus. 5 personnes sont tuées tous les jours par la police. Pour vous donner une idée, donc ça, c'est avant même d'arriver en prison, les personnes sont très très souvent exécutées. Et ensuite, dans les prisonniers qu'on a, 46% sont des détenus provisoires, c'est-à-dire qui n'ont pas été jugés, très souvent qui ont même éventuellement rien fait, et qui vont être détenus de façon provisoire pendant 6 mois, 8 mois, parfois même pas dans des prisons, mais dans des commissariats, parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons, dans des situations catastrophiques, et éventuellement devenir membre d'un gang, même pour sauver sa peau. propos pendant ce temps de détention.
Dernière action, Yasmine Boiga, en guise de conclusion, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission.
Non, moi je trouve que c'est intéressant aussi le cas du Brésil pour un peu confronter cette question de l'incarcération avec la question de la démocratie, avec le fait que ce poids des préoccupations sécuritaires et de la demande répressive qui est pas forcément dans l'opinion publique, mais qui est suscité auprès de l'opinion publique aussi par les candidats aux élections, peut amener à des politiques qui sont extrêmement néfastes pour le peuple, pour la population, la popularité de la lutte contre le crime peut produire des effets totalement antisociaux, on va dire, enfin contre l'intérêt de la société. Et donc il y a quelque chose peut-être à réfléchir autour des modes de supervision des forces de police, des pouvoirs coercitifs de l'État pour limiter ces dérives-là.
Et ben, ça sera l'objet peut-être d'une future émission. En tout cas, un grand merci Lamia Ouallalou d'avoir été avec nous. Je rappelle, journaliste, correspondante à Rio notamment, Le Figaro, Mediapart, Le Monde Diplo, d'ailleurs le dernier en date, vous avez participé. Et puis j'indique pour les auditeurs ce livre que vous aviez écrit l'année dernière chez La Découverte, Brésil, histoire, société et culture. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin, très tôt en direct depuis Rio. To gang up on this kid, house in the foam, like he didn't know how to hang up. Would be hard though, up to a minute or so, and then yells time on. And when you get your commissary by this and that, or else I'm gonna be on a supposed stay off. Extort, figure safe, way off. Feel the death, you ain't protecting me. Forgot today's my day, you hold my head and drift to super. Et puis un grand merci à vous également, Yasmine Boiga. L'heure était un peu plus raisonnable, décente pour nous. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle par exemple un article qui va paraître là, je crois, demain dans La Vie des Idées.
Oui.
Parler notamment de ce cas qu'on a évoqué ce matin de Kélif Broder. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant de la retrouver, comme chaque jour sur France Culture, on retrouve La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.